Et depuis lundi dernier, de nombreuses questions se posent. Qui a gagné cette guerre? Est-ce la fin des hostilités? Et surtout, est-ce enfin des perspectives de paix? Daniel Habert répond à ces questions dans nos conversations, bien sûr. Il est au micro de Blaise van der Linden.
Daniel Habert, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka pour nos conversations. Alors Daniel, lundi, 20 otages vivants sont rentrés en Israël. Cela a signifié un cessez-le-feu quasi immédiat. On rappelle qu'il reste encore 24 corps d'otages dans la bande de Gaza. À l'heure où on enregistre, les nouvelles disent que 5 corps devraient être restitués à Israël dans la nuit de mercredi à jeudi. Alors Daniel, avec toutes ces informations qu'on a récupérées et cette grande conférence à Sharm el-Sheikh sur la paix au Moyen-Orient. Est-ce qu'on a pu tirer des conclusions sur qui a gagné cette guerre?
Alors il y a évidemment beaucoup de candidats, mais soyons clairs, hein, c'est Israël qui a gagné. Israël a gagné pour trois raisons. D'abord, elle a totalement rétabli sa crédibilité militaire sur tout le Moyen-Orient en 2 ans, avec des opérations d'une agilité intellectuelle que l'histoire retiendra. La deuxième raison, c'est que tous ses ennemis ont été vaincus, même si c'est pas définitivement. Et troisième raison, il y a la libération de tous les otages vivants. Alors bon, pour les morts, on sait que c'est compliqué, mais c'est l'intérêt du Hamas de les retrouver, puisque chaque soldats morts donnent lieu à des libérations de prisonniers de grande valeur pour le Hamas. Donc c'est leur intérêt tout autant que celui d'Israël. Donc Israël a gagné sur tous les tableaux. Mais bien sûr, il y a d'autres candidats à avoir gagné. Il y a bien sûr en tête Trump. Et effectivement, je crois que sans lui, les choses auraient peut-être encore duré un peu plus longtemps. Il aurait fallu qu'Israël mette une pression militaire plus durable. Pourquoi est-ce que Trump a été décisif? Parce que il a non pas tordu le bras d'Israël, mais réussi à faire tordre le bras du Hamas par ses deux amis que sont le Qatar et la Turquie, avec qui Trump, enfin l'Amérique, hein, a des rapports tout à fait privilégiés. Donc Trump a dû faire les menaces et les promesses nécessaires pour qu'on torde le bras du Hamas. Donc oui, Trump a gagné. Les Européens ont perdu, et pour sauver la face, Macron en tête est obligé de se rallier finalement à la victoire de Trump. Les Arabes peuvent estimer avoir rempli tout à fait leur rôle, et ils ont été au premier rang, notamment l'Égypte, qui a repris une place dans le monde arabe qu'elle avait avant la paix avec Israël en 79, qu'elle est en train de retrouver. Et puis la Turquie et le Qatar, qui jouent un double jeu, qui vont évidemment continuer à jouer un double jeu, ont aussi réussi à tirer leur épingle du jeu. Et on s'aperçoit surtout que le bombardement par Israël sur Doha pour essayer d'éliminer quelques membres du Hamas politique, finalement n'a pas empêché, peut-être a même accéléré la paix. Donc voilà, il y a plusieurs vainqueurs, mais de très loin c'est Israël.
Est-ce que c'est la fin des hostilités, Daniel Habert?
Alors pas tout à fait, parce qu'on peut compter sur le Hamas pour jouer au plus fin. Ils ont commencé déjà à sortir des tunnels, endosser leurs beaux habits, leurs beaux uniformes et déclarer qu'ils ont gagné. Sachant qu'ils ont perdu, il faut imaginer ce qu'aurait été une cessation des hostilités telle qu'on mettait la pression sur Bibi pour qu'il l'accepte il y a des mois et des mois, et il fallait pas le faire, il a eu raison de résister. Donc si le Hamas avait vraiment gagné, ça aurait été une débauche de cris victorieux. Là, ils ont perdu, ils font semblant d'avoir gagné, personne n'est dupe. Israël va évidemment calibrer le retrait de Tsahal en fonction du désarmement du Hamas, Et quant aux otages qui ne sont pas encore rendus, eh bien, il n'y aura pas de libération de terroristes en compensation. Donc, Israël garde la maîtrise des hostilités et au fond du maintien de l'ordre et reste totalement mobilisé. Trump a certainement dû promettre au Hamas de faire pression pour Israël de ne pas reprendre la guerre, et je pense que Trump respectera sa promesse en faisant pression sur Israël, comme il l'avait fait sur la dernière phase de la guerre des 12 jours en Iran, si vous en souvenez. Mais si le Hamas montre de la mauvaise volonté, Trump restera 100% aux côtés d'Israël. Donc c'est une fin qui prendra encore quelques jours, et il faut être patient, et au fond, les cris de joie que l'on voit à Tel Aviv sont justifiés.
Alors, on a évoqué la fin des hostilités. Le point prochain, c'est la paix. On a vu le Concert des Nations qui s'est réuni à Sharm el-Cheikh lundi, justement, sous invitation de Donald Trump et du président égyptien al-Sissi, sur un grand sommet autour de cette paix au Moyen-Orient. Est-ce qu'on y arrive à cette paix, ou c'est un processus qui va encore durer des dizaines d'années?
Bien sûr que ça va être long, bien sûr qu'on est loin de la paix, et bien sûr que Trump ne se fait pas trop d'illusions. Si vous voulez, d'abord tous les ennemis de la paix, qui sont les ennemis d'Israël, mais aussi les ennemis de l'Occident, tous ceux que Israël a vaincus, à commencer par l'Iran, sont toujours là et n'ont qu'une seule idée, c'est de se venger. Donc ils préparent des ripostes, ils préparent des armements supplémentaires, et Israël le sait très bien, et les Américains le savent très bien, et s'y préparent aussi. On peut aussi compter sur le Qatar et sur la Turquie pour continuer à jouer un double jeu. Ils ont essayé de sauver le maximum la situation du Hamas et continueront à la faire. Il faut jamais oublier que le Hamas est une branche des frères musulmans, et que le frère musulman est une organisation supranationale. C'est l'islamisme mondial, c'est le plus grand danger du monde en réalité, et ils ont deux bases nationales, ces frères musulmans, c'est le Qatar et la Turquie. Donc il se trouve que c'est des pays qui sont au fond en dialogue constant avec notamment les Américains, et parce qu'ils y disposent de bases. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Et donc on peut penser que les États-Unis, tant qu'on reste avec une position de Trump aussi pro-israélienne, ils vont être non pas des, ils seront pas des obstacles à la paix. La véritable difficulté devant nous, c'est l'organisation de l'ordre à Gaza et de la distribution alimentaire. On voit pas encore très clairement qui fera et comment. Mais à plus long terme, je crois que l'idée d'un mandat à nouveau sur la Palestine, comme il y a eu un mandat en 1922 de la Grande-Bretagne sur la Palestine, un nouveau mandat des États arabes probablement, des différents pays arabes, soutenus certainement par l'Occident, permettra de trouver une solution à la question palestinienne qui ne soit pas une solution à deux États immédiate. Elle sera repoussée dans le temps, mais c'est tout ce que demandent les Arabes. Ils veulent une perspective, et si c'est eux qui la gèrent, cette perspective, bon, ils seront d'accord. Et donc c'est pour aller vers la dernière phase de la paix. La paix se fera que si on peut relancer les accords d'Abraham. C'est la clé parce que c'est une invention à la fois des Israéliens, des Arabes eux-mêmes, mais c'est aussi une invention de Trump, donc on peut compter sur lui pour que tout ça se réalise. Et ça veut dire que ces accords, qui n'ont pas été rompus malgré la guerre, vont devoir s'élargir, bien sûr on le sait, à l'Arabie Saoudite, mais là il y a un phénomène nouveau, c'est celui de l'Indonésie. 280 millions d'habitants, le plus grand pays musulman du monde, un président Prabowo Subianto qui a fait un discours à l'ONU dont le dernier mot fut Shalom, et qui a fait le voyage d'Indonésie à Sharm el-Cheikh. C'est pas évident, c'est beaucoup d'heures de vol pour être là et pour dire que ils sont partants. Et donc ça, c'est très important. Ça veut dire que ce sud global qui est le plus grand danger pour la paix, parce que il soutient tout ce qui est anti-occidental et que la paix ne peut pas se faire comme cela, est en train d'évoluer justement sous la houlette d'un certain nombre de pays du tiers-monde, de ce sud global, dont l'Indonésie, dont l'Égypte et dont d'autres pays comme l'Arabie Saoudite. Donc je crois que la paix, elle n'est pas pour demain, mais elle a une direction.
Et on va évidemment, on continuera à suivre hein, tous ces avancements dans nos conversations. Daniel Habert, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka ce matin. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles conversations.
À bientôt, au revoir.